À Noël, on met de la lumière partout. Ici, vous avez le boulevard du Midi, juste là, le long de la plage. J'ai été au Suquet, en haut de la montagne du Suquet. Ils ont décoré il y a un pin parasol. Là, ils ont mis des guirlandes. C'est magnifique. Et puis, le boulevard Carnot, je ne sais pas si cette année, mais il y a quelques années, il y avait vraiment un tapis de guirlandes sur plusieurs centaines de mètres. C'était en 2019. J'y suis pas allé. Cette année, peut-être avec les restrictions électriques, énergétiques, ils ne l'ont pas fait. Mais à Noël, on met de la lumière partout. À Kiev, ils avaient pensé ne pas mettre de sapin ni de guirlande à cause de la guerre. Mais des hommes d'affaires ukrainiens ont dit « nous, on va payer ». Parce qu'il nous semble qu'il faut maintenir la tradition de Noël et surtout maintenir la normalité. C'était pour eux une forme de résilience. À Noël, on met de la lumière. Mais on peut se demander si on a, enfin, de quelle sorte de lumière on parle. A-t-on vraiment besoin de lumière? Alors, on n'a pas vraiment besoin de ces guirlandes lumineuses, même si je les ai devant moi et derrière moi, mais de la lumière en général. Notre monde a-t-il besoin de lumière? Et moi, dans ce monde, ai-je besoin de lumière? Et la réponse est oui, trois fois oui. En 2001, c'était il y a 21 ans déjà, nous avons eu une panne électrique dans notre maison à Bruxelles. Et c'était pas juste notre disjoncteur, c'était le disjoncteur général de toute la ville de Bruxelles. Enfin, une grosse partie de la ville, 1 million d'habitants quand même à Bruxelles. Tout le monde était plongé dans le noir. Nos enfants étaient petits et c'était rigolo d'être dans le noir. On a cherché des bougies, on a cherché les lampes de poche et puis les piles étaient plates. Alors on a cherché les piles, on n'a jamais trouvé les piles neuves. Et ça a été drôle pendant une demi-heure. Mais la panne électrique a duré 6 heures. Et c'était l'hiver et on a commencé à avoir froid aussi après cette panne électrique ou dans cette panne électrique. Mais c'est surtout le manque de lumière qui faisait qu'on n'était pas bien. On a besoin de lumière pour vivre, on a besoin de cette onde électromagnétique ondulatoire et des photons qui composent, paraît-il, la lumière. On est un petit peu comme les plantes qui ont besoin de lumière pour faire leur photosynthèse. Et dans le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible, la création de la lumière est placée en premier. Que la lumière soit. Genèse 1, verset 3. Fiat lux en latin. Yahi or en hébreu. Yahi comme dans Yahvé qui veut dire que la lumière soit. Le verbe être. Yahi, Yahvé. Or, la lumière. Dieu voulait un monde lumineux. Pour les hommes. Et puis, le prophète Ésaïe nous parle de lumière, et Maryse nous l'a lu tout à l'heure, une promesse de lumière, une lumière attendue par tout un peuple. Le peuple qui marchait dans les ténèbres vit une grande lumière. Et puis le prophète Ésaïe poursuit quelques versets plus loin en disant « Un enfant nous est né, un fils nous est donné, cette lumière promise, elle vient ». Un enfant nous est né, il y a un lien évident entre cet enfant et la lumière. Et quand cet enfant naît autour de l'an zéro de notre ère et qu'il est présenté comme étant la lumière du monde par un vieil homme, Siméon, qui a l'air de savoir ce qu'il dit et qui dit justement « Maintenant je peux partir en paix ». Il est vieux, Siméon. « Je peux partir en paix parce que mes yeux ont vu le Sauveur. Il est la lumière qui éclaire les nations. » Et quand Siméon nous dit ça, on est intéressé, on se penche sur le berceau, là où il y a Jésus, et on se demande, mais où elle est cette lumière? Parce qu'on a besoin de lumière pour vivre. Et quand cet enfant devenu grand, quand il est dans la trentaine, quand il persiste et signe en disant, « Je suis la lumière du monde, celui qui croit en moi vivra. » Celui qui croit en moi ne vivra plus dans les ténèbres, mais il marchera dans la lumière. On tend l'oreille Parce qu'il est question de lumière et on sait qu'on a besoin de lumière pour vivre. On tend l'oreille parce que on entend le mot ténèbres. Et on sait que ces ténèbres sont aussi présentes dans notre vie. Ou peut-être juste un petit peu de brouillard, ou de clair-obscur, ou peut-être qu'on est simplement, enfin simplement, au fond du trou, ou dans le tunnel, et qu'on ne voit pas le bout du tunnel. On sait aussi que comme dans la guerre des étoiles avec Anakin Skywalker, vous savez, le anciennement Jedi, mais qui a basculé du côté obscur de la force, et qui est devenu Dark Vador. Alors Vador, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais dark, c'est sombre, c'est le côté ténébreux. Et il y a au moins ceci de vrai dans la guerre des étoiles, c'est que le côté sombre n'est jamais très loin de chacun d'entre nous. Et quand on s'en rend compte, on se dit qu'on a vraiment besoin de lumière pour éclaircir, pour éclairer tous les coins sombres de ma vie. Besoin d'une grande lumière à la mesure de mon obscurité. Et oui, je remets le thème de la lumière au niveau de la vie personnelle parce que il est facile à Noël de parler de lumière de manière un peu abstraite ou artistique ou féerique ou métaphysique et donc d'en parler d'une manière très éloignée de nous. La lumière, c'est beau la lumière, oui. Mais ce serait d'en parler d'une manière un petit peu désincarnée, sans chair, sans notre chair. Mais Jésus n'est pas venu pour nous parler des belles lumières de Noël, des guirlandes ou même des bougies. Jésus est venu pour être une lumière dans la vie des gens, dans ta vie et dans la mienne. Il est venu pour te sortir de l'obscurité, pour que les ténèbres reculent dans ta vie, pour nous faire voir le bout du tunnel. Alors, comment Jésus peut-il être la lumière dans une vie? Et je vous donne un exemple tiré de la Bible, une histoire où la lumière a fait reculer les ténèbres dans la vie d'une femme. C'est l'histoire d'une femme qui a raté sa vie. Elle n'a pas de nom dans l'évangile de Jean, au chapitre 8. Elle est anonyme, elle est très seule. Elle est au milieu de ces hommes très machos qui veulent la faire disparaître du paysage à coups de pierre, qui veulent la lapider parce qu'elle a été prise en flagrant délit d'adultère. Cette femme est seule face à ces hommes parce qu'elle a raté sa vie. On l'appelle parfois la femme de mauvaise vie. Alors il y a, dans mauvaise, il y a le côté moral. C'est indéniable, mais il y a aussi un côté qualitatif. C'est une vie pas bonne qu'elle a vécue. Une vie qu'elle n'a peut-être pas voulu, certainement même. Elle aurait voulu, comme toutes les femmes, avoir une vie lumineuse, heureuse, et la voilà malheureuse. Assise par terre, accusée par tous, rejetée par tous, humiliée par tous. Et je la vois peut-être à genoux, la tête entre ses genoux, le visage caché par ses mains dans l'obscurité, dans les ténèbres. Bien sûr, elle a fait une erreur, mais dans la vie, qui n'a pas fait des erreurs? Qui pourrait lui jeter la pierre? Et cette femme est doublement dans le noir. Elle se sent coupable et les autres, ces hommes-là, ne lui laisse aucune chance de sortie. Un tunnel. Cette femme est désespérée. Et même si elle s'en sort, comment vivre après cela? Et puis Jésus, la lumière du monde, arrive sur les lieux de ce drame humain. Il parle aux hommes qui accusent et il lâche leurs pierres. Du plus vieux au plus jeune, nous dit l'évangile de Jean au chapitre 8. Parce que certainement les plus vieux ont conscience de l'accumulation des zones d'ombre dans leur vie. Et ils lâchent leurs pierres. Et les jeunes suivent l'exemple des aînés. Ils lâchent leurs pierres et ils s'en vont. Ils disparaissent. Jésus écrit par terre quelque chose. Personne ne sait ce qu'il écrit. Et puis, il s'adresse à la femme qui a raté sa vie et lui dit deux traits de lumière, d'une puissance lumineuse incroyable, une lumière surnaturelle, un feu d'artifice qui n'a rien d'artificiel. Il va lui dire, lui demander, où sont ceux qui te condamnaient? Et la femme lui répond, il n'y a plus personne. Et Jésus va lui dire, je ne te condamne pas non plus. Jésus, la lumière du monde. Et cette phrase, c'est la lumière du pardon qui éclaire une vie qui n'a jamais été très bonne. Et cette femme pourra vivre très longtemps sous la lumière de ce pardon. Tu n'es pas condamné, lui dit Jésus, à vivre une mauvaise vie. Tu peux vivre à la lumière de mon pardon désormais. Je ne te condamne pas non plus, je te pardonne. Et puis, deuxième phrase, va et ne pêche plus. Et cela ressemble à un ordre, mais c'est une parole de libération, c'est une parole d'espérance. Maintenant que tu es sous une nouvelle lumière du pardon, tu peux recommencer quelque chose de nouveau avec moi dans ta vie. Tu vas y arriver. Tu peux me faire confiance. Yes, you can, disait l'autre. Avec moi, il n'y a pas de déterminisme dans la vie. Quoi que tu aies fait, quelles que soient les souffrances que tu as vécues, tu n'es pas voué aux ténèbres. Je suis la lumière du monde, dit Jésus. Et il le dit juste après cette rencontre avec la femme de mauvaise vie au chapitre 8. Celui qui croit en moi ne vivra pas dans les ténèbres, mais il marchera dans la lumière. Pour cette femme, Jésus, la lumière du monde, ça voulait dire quelque chose. Et quand elle a rencontré Jésus, les ténèbres de sa vie ont reculé. La nuit de la culpabilité a été éclairée par la puissante lumière du pardon. La lumière, la nuit du désespoir, a fait place à la lumière de l'espérance. Cette femme anonyme qui a raté sa vie peut désormais marcher dans la lumière d'une vie nouvelle. C'est cela, la lumière de Jésus pour le monde, une lumière qui te permet de te relever et de recommencer à vivre, une lumière qui fait vivre, qui n'a pas besoin de cela. Alors, il ne faut pas avoir nécessairement raté sa vie comme cette femme pour avoir besoin de cette lumière. On a tous besoin de cette lumière du pardon ou de l'espérance, même ceux qui ont plus de 50 ans et qui ont une Rolex au poignet et qui ont donc, aux yeux de la société, réussi leur vie, ou du moins réussi dans leur vie, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Même ceux qui n'ont pas tout raté dans leur vie, même ceux qui n'ont raté que deux ou trois choses insignifiantes dans leur vie, mais qui restent quand même des zones d'ombre dans leur existence, même ceux-là, même celles-là, ont besoin de cette lumière pour éclairer leur vie. Bien sûr, comme cette femme, enfin on le suppose, il faut accueillir cette lumière. Comme elle, il faut décider d'en vivre jour après jour, de rester sous le rayonnement de cette lumière. Comme elle, il faut y croire, c'est-à-dire faire confiance. Il y a certainement un pas à faire vers cette lumière pour rester dans l'éclairage de cette lumière. Mais ce qui est beau dans cette histoire et ce qui est beau dans l'histoire de Noël, c'est que cette lumière s'est approchée de nous. Elle est venue dans le monde. Ce qui est beau dans cette histoire de Noël, c'est de savoir que cette lumière est venue à notre rencontre. Alors, chers amis, en ce Noël 2022, allons-nous nous contenter de regarder les guirlandes du sapin, aussi belles soient-elles, regarder les bougies ou tout ce qui brille et qui s'éteindra une fois les fêtes passées que l'on rangera dans le carton où l'on a inscrit Noël. C'est chez vous comme chez nous, non? Les cartons Noël. Où allons-nous l'accueillir, cette lumière, tout à nouveau, pour qu'elle nous éclaire de son incroyable lumière? Dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, Jésus dit « Je suis la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. » Fiat luxe. Que la lumière soit dans ta vie. Amen.